Matthieu au chapitre 5, nous avons déjà commencé à voir trois béatitudes, mais nous allons en voir ce matin seulement deux, parce que c'est tellement riche. Matthieu chapitre 5, verset 1er, il est dit ceci: « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou les doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. » Quand on lit ces textes pour la première fois ou quand on les relit, on est toujours interpellé de voir que le désir de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste dans le fait qu'il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons remplis de joie. Il veut que nous soyons en train de nous réjouir parce qu'il y a une récompense qui nous attend aussi dans le ciel. Et si c'était pas Dieu qui l'avait dit, on n'oserait même pas le dire. Mais c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole, qu'on a le droit de se réjouir de la récompense qu'il est en train de nous réserver. Et ce matin, je voudrais insister véritablement sur ces deux béatitudes qui sont celles-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La faim et la soif dans l'existence de l'être humain, ce sont quelque chose qui sont importantes. C'est les besoins primaires et les besoins vitaux. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? On meurt, tout simplement. Et il n'a pas besoin de faire beaucoup d'études pour réaliser que, spirituellement parlant, si nous n'avons pas faim et soif de la justice, alors nous risquons de vivre pas la vie que Dieu a prévue pour nous, pas cette vie remplie de joie et de bonheur et d'allégresse, quelles que soient les situations. Parce que quand Dieu dit heureux, quand Jésus parle et emploie cette expression-là, il ne part pas de la joie où on vient de manger un bon repas et qui disparaît dès l'instant où on a digéré. Il part de cette joie qui est là, quelles que soient les circonstances. Que dehors il pleuve, que dehors il fasse chaud, qu'il y ait la neige, qu'il y ait le vent, peu importe, tout ça, ça ne joue pas du tout sur la joie qui est à l'intérieur. Et Dieu veut que nous ayons cette joie-là, qui ne dépend pas des circonstances. Est-ce qu'il y a des moments où on est abattu? Vous en avez des moments comme ça? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des moments où vous vivez des victoires? Bien sûr. Des moments où on se réjouit parce que Dieu répond à la prière. Il y a quelque chose qui est arrivé cette semaine, je ne peux pas vous rentrer dans les détails, mais je me suis arrêté un instant et j'ai dit « Seigneur, tu as entendu ma prière, tu as exaucé ma prière, j'ai prié pour une personne et la personne, j'ai pu la rencontrer après, et elle m'a dit vraiment qu'elle était en train de progresser avec le Seigneur. » Et c'était une réponse à la prière. Ça faisait des mois que j'avais pas eu de nouvelles. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait un progrès. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu veut que nous vivions des choses comme ça. C'est sûr que la vie chrétienne, sans vivre des expériences pratiques, sans voir la manifestation de notre foi, c'est sûr que c'est pas joyeux. Imaginez si vous restez seulement dans la théorie des commandements, si vous apprenez les commandements par cœur. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si c'est ça seulement qui vient agrémenter notre vie chrétienne, alors on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais si, parce qu'on a le soin de plaire à Dieu, si on a le soin de passer du temps devant Dieu, d'obéir à sa parole, on voit par la suite l'exaucement à nos prières, alors on peut bénir le Seigneur et on peut se réjouir dans notre cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice est aussi importante pour notre vie spirituelle que la nourriture ou que l'eau pour notre vie physique. Est-ce que ça serait pas une bonne idée qu'à chaque fois qu'on prend un repas physique, on puisse crier à Dieu en disant « Seigneur, j'ai soif de ta justice ». Je crois que ça serait une bonne chose, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas autant de fois qu'on le fait dans la journée. On mange trois fois, au minimum trois fois. En France, on est bien loti pour ça. Mais combien de fois est-ce qu'on crie à Dieu pour sa justice? Combien de fois on a faim et soif? de justice. En tout cas, on voit que c'est un processus qui est en train de se mettre en place, après avoir réalisé notre pauvreté spirituelle. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça, qui nous montre tel que nous sommes vraiment devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ça amène des sentiments, ça amène une affliction, parce qu'on est brisé dans notre cœur de voir combien on est pécheur, combien on est sale devant Dieu. Et alors on continue, on accepte avec douceur de cœur de se soumettre à cette réalité. On accepte la vérité telle qu'elle est vraiment. On accepte de regarder dans le miroir de Dieu, de la parole de Dieu, et de se voir comme cela. Et à cette étape-là, le Seigneur nous demande d'avoir faim et soif de justice. C'est-à-dire, oui, tu es pécheur. Maintenant, je veux te faire justice. Maintenant, je veux te transformer. Maintenant, je veux qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ça, c'est le programme de Dieu pour nous. Heureusement que les béatitudes ne s'arrêtent pas seulement au verset 5, mais que le Seigneur y continue. Il y a ce verset 6 qui est là. Il veut nous rassasier de sa justice. Alors, de quelle justice est-il question? Parce que si on doit avoir faim et soif, faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est notre propre justice? On a faim et soif d'être tellement juste aux yeux des hommes, mais dans notre cœur, c'est pas grave comment on se comporte. Les pharisiens, vous savez qu'ils étaient les champions, toute catégorie de la propre justice. Ils portaient des tenues qui étaient impeccables, un blanc immaculé sûrement. Il y avait des broderies, des choses en or. Ils avaient une Bible sûrement avec une couverture en cuir qui était là, merveilleux. Quand on les voyait, on disait « qu'est-ce qu'ils sont spirituels ?» Et vous savez ce que dit Jésus ? Il dit « malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre toutes les autres choses. Les pharisiens, ils se promenaient dans leur jardin, ils allaient prendre leur maître et ils coupaient le dixième du thym, le dixième du romarin, et ils l'apportaient dans la maison de Dieu. Ah, qu'est-ce que c'est spirituel! Les petites plantes, la feuille de menthe dans leur jardin, ils en coupaient une pour donner au Dieu. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Et dans leur cœur, ils négligeaient la justice et l'amour de Dieu. Ils avaient un cœur fermé. Et c'est pas cette justice-là qu'il faut connaître. Il ne faut pas aussi courir après avoir faim et soif de la justice théorique de Jésus-Christ qui est parfait. Jésus était un homme parfait, bien sûr. On est tous émerveillés par le modèle qu'il nous a donné, mais on veut pas rester extasié face à ce modèle de justice en se disant, mais finalement, on n'y arrivera jamais tellement Jésus a été un homme bon, il n'a jamais menti, il n'a jamais péché, il n'a jamais résisté, il n'a jamais succombé à la tentation, il a toujours résisté. Vous savez, le soleil, il nous permet de voir et d'agir, mais si nous faisons que regarder le soleil, qu'est-ce qui se passe? On n'y voit plus. La lumière du soleil et les rayons qui sont là vont brûler nos yeux. Parce que le but du soleil, c'est pas qu'on le regarde, mais c'est qu'on agisse à sa lumière. Et Jésus, il est la lumière de la vie. Et on ne doit pas se contenter de le contempler, mais on doit agir à sa lumière. Il a dit, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, mais il a dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Nous devons agir à la lumière du Seigneur, nous devons nous mettre à l'œuvre, nous devons avancer, nous ne devons pas seulement regarder de manière théorique toutes les merveilles. On pourrait passer notre vie, on est en train en ce moment d'étudier le livre des Proverbes le vendredi soir et on voit combien c'est riche, combien chaque verset on pourrait rester des heures, mais on peut rester toute notre vie à étudier la Bible, si on la met pas en pratique, ça ne sert à rien. Le Seigneur veut que nous ayons faim et soif de cette justice qui, oui, regarde un modèle de Jésus-Christ, mais qui dit, Seigneur, je veux vivre, je veux être un petit Christ. Le chrétien, ça veut dire petit Christ. Seigneur, je veux être à ton image, je veux te ressembler. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Les anges, à ceux qui regardaient le ciel, qui venaient de voir Jésus monter, partir vers son Père. Vous vous souvenez ce passage? Quand Jésus a ce qu'on appelle l'ascension, quand il est monté vers le Père, il est dit que les disciples, ils étaient là, ils regardaient le ciel et ils savaient pas ce qu'il fallait faire de plus. Celui qu'ils ont vu ressusciter, celui d'abord qu'ils ont vu crucifié, mis au tombeau, puis ressuscité, cette fois-ci, il a disparu, ils savaient pas ce qui allait arriver. Et ils étaient là, extasiés, vers le ciel. Et puis, heureusement, Dieu a envoyé des anges, parce que je pense sinon, ils seraient restés un bon moment là. Et les anges leur ont dit, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Sous-entendu, ça veut dire ne restez pas là à regarder le ciel, mais allez travailler, allez mettre en pratique, allez obéir à ses commandements, parce que quand vous allez faire ça, vous allez avancer le royaume de Dieu et le Seigneur va pouvoir revenir tout à nouveau. Et c'est ce que le Seigneur nous invite, parce qu'ils n'ont pas pu le voir revenir, les disciples. Mais nous, peut-être que nous allons pouvoir le voir si le Seigneur arrive rapidement. Eh bien, nous allons être de ceux qui vont voir son retour, qui allons être enlevés avec lui. Mais pour cela, la Bible nous dit qu'il faut travailler. Et ça fait partie, cette faim, cette soif de la justice de Dieu, c'est ce que ça veut dire, nous mettre à l'œuvre. Alors, il ne s'agit pas non plus de la justice où Dieu corrige toutes les injustices. Aujourd'hui, on voit des hommes et des femmes qui se lèvent parce qu'il y a tellement d'injustices dans ce monde. Oh là là, qu'est-ce que fait Dieu? Et on est là en train de remuer toutes sortes de sentiments. Et c'est vrai, est-ce qu'il y a des injustices autour de nous? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des discriminations? Est-ce qu'il y a des inégalités? Est-ce que votre cœur est touché par ces choses-là? Est-ce que c'est normal? Ben oui. Mais c'est la faim et soif de justice, ça ne veut pas dire que Dieu va faire justice tout d'un coup en claquant des doigts. Faim et soif de justice, c'est pas ça. La justice où on veut que Dieu répare toutes les injustices d'un seul coup, vous savez, les injustices sont le résultat du péché, tout simplement. Du mal qui travaille dans le cœur de l'homme et qui se propage. Sur la terre, il y a assez de richesses pour que tout le monde puisse bien vivre, bien se loger, bien être éduqué. Pourtant, c'est peu qui ont beaucoup d'argent et beaucoup qui n'en ont pas beaucoup. Vous avez suivi? Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui a mal réparti? Ou est-ce que c'est les hommes qui refusent de partager? Refuse de donner. Moi, je crois que c'est plutôt ça. Dieu, sur la terre, il y a tout ce qu'il faut. Là, il y a assez de place pour tout le monde. Mais c'est des hommes qui s'approprient tout pour eux et puis qui laissent les autres dans leur embarras. Il y aura un jour où Dieu fera parfaitement justice. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire du bien. C'est quelque chose qui peut nous rassurer, nous encourager de savoir qu'un jour, Dieu fera pleinement justice. Et si on vous a maltraité, si on vous a fait du mal, alors ça on le verra par la suite, mais le Seigneur, il réparera les choses. Des fois, c'est immédiat, mais des fois, ça prend du temps. Mais le Seigneur, il fait parfaitement justice. Et puis, de toute façon, le jour du jugement, il est dit qu'il traitera chacun conformément à ses actes. Ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Ceux qui cherchent la justice. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu fera justice à ce moment-là. Et ceux qui obéissent à l'injustice, ceux qui, dont c'est le fer de lance de faire du mal aux autres, de traiter les gens avec des inégalités, avec des préférences pour les uns parce qu'on les connaît, parce que c'est notre ami, de faire des choses comme ça, que l'on voit même dans le monde politique, Dieu fera justice. C'est pas notre affaire à nous. Et on ne doit pas crier « Seigneur, j'ai faim et soif de cette justice-là ». Non, non, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans ce verset que je viens de vous lire, c'est un petit peu expliqué. « Ceux qui, par la persévérance, à bien faire ». Est-ce que vous avez la persévérance à bien faire? Est-ce que vous désirez mettre en œuvre tout ce que le Seigneur vous demande de faire dans votre vie? Ça, c'est avoir faim et soif de la justice. Dans Isaïe 51, il est dit d'une autre manière « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice ». Et regardez ce qu'il est dit par la suite. Qui cherchait l'Éternel? Ceux qui ont faim et soif de la justice, ce sont ceux qui cherchent l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'ils le cherchent? Parce qu'ils veulent tellement faire le bien, mais ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Vous avez déjà remarqué ça, que vous avez plein de bonne volonté, vous avez plein de bons désirs. L'apôtre Paul l'exprime, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Or, bien sûr qu'on arrive quand même, sans Dieu, à faire quelque bien. On le voit. Mais Dieu, il parle de la persévérance à bien faire, quelque chose qui dure dans le temps, faire le bien de manière continuelle. Ça, c'est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. C'est possible à l'homme qui choisit de crier à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, par moi-même, j'y arrive pas. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais toi, dans ma vie, dans mon cœur, les choses vont pouvoir se débloquer. » La persévérance à bien faire. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous vivions. Le modèle dressé par Jésus de ce bonheur-là qui passe par la faim et la soif de la justice, c'est cette faim et soif de la présence de Dieu dans notre cœur. Et quand Dieu est présent en nous, automatiquement découle de la justice aussi qui sort de notre être. Nous, on est droit dans notre cœur et on est droit devant les hommes. Même pour ceux qui voudraient essayer de nous piéger, il y a une droiture qui est là. Est-ce que la promesse de Dieu, elle n'est pas merveilleuse? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est quoi la promesse? Car ils auront quelques miettes. C'est ça? Vous vous contenteriez de quelques miettes? C'est déjà pas mal. Il y en a une qui a dit, Seigneur, moi, les miettes, ça me suffit. Parce qu'elle savait que une miette de la part de Dieu, c'est incroyable. Mais Dieu ne nous promet pas des miettes. Dieu nous promet de nous rassasier. Dieu nous promet de nous faire du bien. Imaginez qu'on vous invite à table et qu'on vous serve que des miettes du pain, que les miettes du riz, que les miettes de les quelques gouttes de la sauce qui va avec. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Mal. Vous allez dire, mais ils m'en veulent, qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand Dieu il nous reçoit à sa table, il nous rassasie, il veut nous rassasier. Simplement, c'est à nous de tendre l'assiette spirituelle, notre cœur, dire « Seigneur, remplis-moi, j'ai faim et j'ai soif de ta justice ». La promesse de Dieu, c'est de nous rassasier, mais on peut se laisser empêcher d'être rassasié par certaines choses. Il y avait une histoire qui raconte qu'un homme, il était perdu dans le désert, et ça faisait des jours et des nuits qu'il était là dans le désert, qu'il était en train d'errer, il savait pas où il était, il était hanté par cette question, combien de temps est-ce qu'il me reste avant de mourir de faim et de soif? Il y avait le soleil qui était là, qui tapait sans pitié sur lui, la fièvre qui commençait à lui faire mal, et quand il était brisé d'épuisement, il tombait par terre, il essayait de dormir un petit peu, pendant qu'il dormait, il rêvait. Il rêvait de melon, il rêvait de pastèque, il rêvait d'eau vive, et puis quand il se réveillait, c'était le supplice, parce qu'il voyait que c'était pas vrai. Et puis, à un moment donné, il commence à continuer à marcher quand même, il se traîne comme il peut, puis au loin, il commence à voir une oasis. Et là, vous savez ce qui s'est passé? La faim et la soif le poussaient à aller vers cette oasis, et puis il y a le cerveau qui s'est mis en marche, qui a dit, mais non, mais c'est un mirage. Ça sert à rien d'aller là-bas, c'est qu'une illusion d'optique. Alors, il était en même temps en train de combattre dans son cœur parce qu'il y avait la faim et la soif, et en même temps l'intelligence qui était là, il y avait ce combat, et donc il commençait à avancer. Mais plus il avançait, plus il voyait les choses qui semblaient réelles, il entendait même le bruit de l'eau, mais il s'est dit, mais disons, le mirage il est sophistiqué, mais c'est un mirage, c'est pas la vérité, je vais aller là-bas, je vais être déçu, ça sert à rien. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé, cet homme, il est tombé raide mort. Il était à 1 mètre de la source d'eau. Raide mort. Une heure après, des bédouins sont passés et ils comprenaient pas la scène. Eux, ils arrivent avec le recul. Ils voient un homme qui est là, qui tend sa main vers l'eau à 1 mètre de la source d'eau. À 1 mètre, il y avait des arbres fruitiers. Il y avait tout ce qu'il fallait dans l'oasis. Mais il a été empêché d'être rassasié. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les pensées combattre dans son esprit. Et on peut laisser nos pensées nous empêcher d'être rassasiés. On peut se dire, mais non, mais ce que Jésus propose, c'est trop beau. C'est pas possible dans le monde dans lequel on vit. C'est pas des choses qui sont atteignables aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Jésus disait des choses au hasard? Est-ce que vous croyez que Jésus, des fois, il allait un petit peu trop loin? Il était un petit peu marseillais sur les bords. Il exagérait certaines fois. Non. Quand Jésus dit quelque chose, il sait que c'est quelque chose que nous pouvons vivre. Et c'est ça qui doit nous faire du bien. C'est pas une illusion d'optique, le bonheur, ce bonheur-là qui est en train d'être décrit par le Seigneur, ce modèle de la vie chrétienne. C'est pas une illusion d'optique. C'est ce que Dieu veut pour nous. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que votre cœur a cette faim et cette soif de justice? Alors, ne laissez rien vous empêcher, que ce soit de l'intelligence, des raisonnements, que les gens vous disent quoi que ce soit. Peu importe ce qu'on vous dit, regardez ce que Dieu est en train de vous dire. Ne laissez pas n'importe quel sentiment, parce qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, aujourd'hui vous en avez marre de ceci ou de cela, mais regardez à ce que le Seigneur est en train de dire. Dans son amour, sa parole est claire. Il veut nous rassasier. La faim et la soif sont un signe de vie. Un mort n'éprouve pas la faim et la soif. Si vous n'éprouvez aucun désir pour Dieu, alors c'est que votre âme est morte, tout simplement. On peut en arriver des fois à ce constat-là. Et il faut être clair. S'il n'y a rien qui se passe pour mon cœur, j'ai pas envie de chercher Dieu premièrement et sa justice, non. Eh bien, c'est que mon âme est morte. J'ai besoin que le Seigneur de la vie me redonne la vie. J'ai besoin que mon âme soit ressuscitée. Et si le Seigneur fait cela, eh bien, alors on peut vivre ce rassasiement de notre âme. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous avez remarqué cette progression qui se passe dans ce texte? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui sont rassasiés de cette justice de Dieu. Mais Dieu veut pas nous enfermer dans une vie chrétienne théorique, dans notre propre justice, comme le disait. Jésus nous donne sa vie en abondance, sa nourriture spirituelle, pour que nous puissions aller vers l'extérieur. Parce que la miséricorde, c'est pas envers Dieu qui nous demande de la pratiquer, mais c'est envers les gens qui sont autour de nous. À quoi ça servirait d'être rempli de la présence de Dieu, de sa justice dans notre vie, et puis d'être fermé par rapport aux autres? D'aller s'enfermer dans une caverne des Pyrénées pour être tellement près de Dieu. À quoi ça servirait? À rien. Mais Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Le vrai bonheur, c'est recevoir la justice et après la dispatcher autour de nous. Seigneur, je veux amener la miséricorde. La miséricorde, c'est littéralement le cœur qui est tourné pour la misère. La compassion agissante pour la misère d'autrui. C'est ne pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. On mérite la colère, on mérite l'enfer, on mérite toutes sortes de choses, mais Dieu agit avec miséricorde. Est-ce que ça vous fait plaisir que Dieu ait fait ça? Qu'il ne nous ait pas livré à la colère, qu'il ne nous ait pas livré à la mort éternelle, mais qu'il nous ait donné cette vie. Oh Seigneur, merci. Mais il nous demande de faire la même chose. Donnez, et il vous sera donné. C'est dit d'ailleurs un peu plus loin dans le sermon sur la montagne. Heureux les miséricordieux. Faites miséricorde et il vous sera fait miséricorde. Jésus est en train de décrire le modèle de quelqu'un qui est rempli de sa présence. Et il y a un bon moyen de vérifier qu'on est dans le bon processus de ce modèle-là. Est-ce que nous sommes miséricordieux? Est-ce que nous aimons faire miséricorde? Est-ce que nous avons pitié de ceux qui sont dans la détresse? Est-ce que nous aimons être généreux envers celui qui est nécessiteux? Est-ce que nous aimons aider celui qui est touché par les malheurs de la vie, qui est là abattu et qui voudrait aller plus loin mais qui est impossible d'avancer? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner celui qui nous a blessé? C'est ça la miséricorde. Quelqu'un qui nous a blessé, il mériterait qu'on ne lui parle plus. Vous êtes d'accord? Humainement, je précise. Mais spirituellement, le Seigneur nous dit, ayez miséricorde. Et il vous sera fait miséricorde. C'est impossible que quelqu'un qui a vu sa pauvreté, qui a été affligé, qui a reconnu que c'était une réalité avec douceur dans son cœur, qui a soupiré pour recevoir la justice de Dieu dans sa vie, c'est impossible que cette personne-là, si elle suit le processus étape par étape, ne manifeste pas la miséricorde. Si je ne manifeste pas de miséricorde autour de moi, c'est qu'il y a eu un bug quelque part. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que quand je regarde la personne qui est dans le besoin, je vois mon propre reflet. Et imaginez quelqu'un qui est dans la misère. Quelqu'un qui s'est planté parce qu'il a pris de mauvaises décisions et du coup sa vie s'est partie en cacahuète, comme on dit. C'est n'importe quoi. Plein de conséquences mauvaises qui sont arrivées parce que la personne a pris. Je prends un exemple concret. Quelqu'un qui commet l'adultère. Les conséquences derrière. Peut-être c'est divorce. Peut-être ses séparations avec les enfants, etc. Toutes sortes de conséquences qui sont derrière. Mais quelqu'un qui, à un moment donné, crie son besoin. Est-ce qu'on va rester le cœur fermé? Est-ce qu'on va dire « je ne veux pas t'aider » Ou est-ce qu'on va faire miséricorde? C'est ça que le Seigneur nous dit. Et il y a combien, pas besoin de faire non plus un long discours par rapport à ça, mais combien il y a de misère autour de nous? Comment est-ce que nous réagissons par rapport à la misère qui nous entoure? Eh oui. Mais la personne qui est là, elle est en train de si elle se repent, si elle est en train dans ce domaine-là, elle est en train justement de pleurer sur son péché, de réaliser sa pauvreté, de reconnaître qu'elle a tous les torts. Et elle est peut-être en train de crier à Dieu pour qu'il fasse justice dans sa vie. Est-ce que Dieu peut pas se servir de nous pour rassasier les autres personnes de la justice? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'il veut. Le divin modèle que Jésus est en train de dresser, c'est que au fur et à mesure, nous devenions à son image et nous puissions faire comme lui, il a fait. Alors il y a une parabole, qu'on va la lire rapidement, mais qui exprime littéralement ce que Jésus est en train de dire, cette béatitude-là, heureux les miséricordieux car ils auront miséricorde. C'est dans Matthieu 18, verset 21, dans le contexte du pardon, où Pierre est en train de s'approcher et dit, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner quelqu'un qui m'offense? Est-ce que c'est 7 fois? 7 fois, c'est suffisant, c'est déjà bien. 70 fois, 7 fois, il dit le Seigneur. Et au verset 23, il donne une parabole pour expliquer cette réalité. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Matthieu 18, 24. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. C'est une pièce de monnaie de l'époque. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout !» Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. On verra tout à l'heure combien ça représente par rapport aux 10 000 talents. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait les mêmes paroles, « Aie patience envers moi, je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette ?» parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié, et littéralement, ne devais-tu pas avoir miséricorde envers ton compagnon, comme moi j'ai eu miséricorde envers toi ? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et la conclusion, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. La miséricorde de Dieu, elle est possible pour celui qui choisit de faire miséricorde. Et vous voyez dans ce passage quelque chose d'incroyable, quelqu'un qui est là, qui va supplier son maître de lui remettre la dette. La dette, c'est 10 000 talents. Un talent, ça représente 20 ans de travail. Vous imaginez? Ça veut dire 200 000 ans, 10 000 talents. 200 000 ans de travail. Combien de temps il faut qu'il travaille pour rembourser? 200 000 ans. Ça veut dire que c'est impossible. Et 100 deniers, par contre, ça représente 100 jours de travail. Pour 100 jours de travail, il est en train d'étrangler son ami qui est là, alors qu'on lui a remis 200 000 ans de travail. Ça représente en jours, si vous voulez comparer vraiment les choses, 73 millions de jours contre 100 jours. Est-ce que c'est pas ce qui se passe quand dans notre vie on choisit de ne pas pardonner quelqu'un qui est sur la terre? Alors que Dieu, qui est tout puissant, qui nous a donné tellement de grâce et de bonté, lui nous a pardonné. Dans ce passage, c'est l'inverse qui est illustré. C'est pas heureux les miséricordieux, mais c'est malheureux celui qui n'est pas miséricordieux, car il n'obtiendra pas miséricorde. Le roi, il avait déjà eu pitié de cet homme, il avait déjà pardonné, mais à cause de son comportement, du fait qu'il a retenu la miséricorde pour son ami, eh bien, il est retourné sous la condamnation. Et c'est ce qui peut arriver dans nos vies. Si nous passons par toutes les étapes des béatitudes et nous sommes en train de prier, « Seigneur, rassasie-moi de ta justice, j'aime ta présence, je veux ta présence. » Mais je refuse de pardonner à mon frère. Tout le travail de pardon et de grâce et de paix que le Seigneur a fait en nous peut être totalement bloqué à cause d'un seul non-pardon. Et quand on ne pardonne pas, non seulement nous on est livrés au bourreau, mais vous avez vu le résultat de ce qu'il a fait à cet homme, il l'a mis en prison. Quand on ne pardonne pas quelqu'un aussi, on peut le bloquer dans une prison spirituelle. On peut l'empêcher de progresser. Voilà pourquoi c'est important autant pour nous que pour l'autre. Il y a un livre qui explique bien ces choses dans ce livre qui dit « Le pardon est une puissance qui libère ». Parce que quand on pardonne, humainement, on fait tout ce qu'on peut pour pardonner avec la grâce de Dieu, il y a le torrent de pardon et de grâce et de miséricorde de Dieu qui jaillit. Imaginez que on vous demande de donner 100 euros à quelqu'un, et si vous le faites, Dieu vous donnera 73 millions d'euros. C'est ce que ça représente. C'est dur, il faut sortir 100 euros de sa poche. Ah, c'est dur, ça représente certaines quantités de travail. Mais quand on voit spirituellement parlant ce que Dieu nous promet par derrière, « Seigneur, je veux sortir mes 100 euros de pardon pour mon frère. » Je sais que toi, tu vas pouvoir par derrière. tu vas m'amener une grâce infinie. Et si je le fais pas, tout est bloqué. Le ciel est fermé. Vous connaissez le ciel des reins, cette expression qui est là? C'est ce qui se passe quand quelqu'un choisit de ne pas pardonner. Ça veut pas dire qu'il faut forcément se sauter au cou, il faut qu'il y ait les violents qui jouent pendant qu'on est en train de demander pardon. Des fois, on demande pardon, les gens en face refusent. Mais tant que nous, on a fait ce qu'il fallait, le ciel est débloqué de notre côté. Nous, on a le ciel ouvert, la personne, elle garde le ciel fermé. Qu'est-ce que vous voulez vivre? La vie heureuse, pleine de bonheur que Dieu veut pour nous, c'est cette vie où le ciel de Dieu est ouvert sur notre cœur. C'est ça que le Seigneur désire. Je vais m'arrêter là, tout simplement. Je crois que déjà, il y a pas mal de matière dans ces deux passages. Le Seigneur nous invite à faire d'après le modèle que nous voyons dans ces versets. Quel merveilleux modèle! Le modèle d'une vie qui est consacrée à Dieu, là où Dieu va pouvoir habiter, qu'une vie que Dieu va pouvoir utiliser pour sa gloire. Voilà ce que Dieu prépare pour chacun de nous. Plaise à Dieu que ce matin, il y ait quelqu'un qui voit sa pauvreté, qui voit le vide de son cœur, qui voit la vanité de ses péchés, et qui soit rassasié aujourd'hui par la justice, par la présence de Dieu dans son cœur. Plaise à Dieu que nous puissions goûter à l'abondance de la miséricorde de Dieu. Que nous choisissions, c'est un choix, c'est une détermination. Seigneur, je veux pardonner celui qui m'a offensé. Jésus l'a répété à de nombreuses reprises, dans le Notre Père en particulier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Il y a des choses que nous faisons sur la terre qui débloquent l'action de Dieu. Est-ce que vous êtes à ce point où vous dites, mais Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Je ne te vois pas agir. Où sont les prodiges, comme disait Gédéon? Où sont les miracles que tu faisais? Peut-être que cela dépend seulement de vous, parce que vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Si vous le faites, si vous vous accordez miséricorde, quelqu'un qui mériterait la colère, qui mériterait de ne plus lui parler, accordez-lui la miséricorde. Et Dieu s'occupera de vous d'une manière que vous ne soupçonnez pas. Dieu, il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Ce matin, c'est le temps de laisser la parole s'appliquer à nos vies. On peut repartir de ce lieu en disant, oui, combien ces paroles sont profondes, combien les paroles de Jésus sont merveilleuses. Ou on peut dire, Seigneur, je veux appliquer ta parole. Je veux vivre la vie et le bonheur et la grâce et l'abondance que tu réserves à tes enfants. Je veux le vivre dès ce matin.